la question de Uriel.
Quelle importance ont les sciences d'après la Torah?
Bon, alors, le Gonneville a dit que les sciences, elles sont les servantes de la Torah. La Torah est la science, elle contient en elle toutes les sciences. Alors, il a écrit, le Gonneville, un bouquin qui s'appelle « Aïl Meshoulash ». Je crois que là, jusqu'à la page 3 de ce bouquin, on a déjà le bac S, d'accord. Et puis après, il faut continuer, il faut avoir une bonne tête, d'accord. C'est des trucs très, ça vole très très haut, très très vite. Bon, Gaon était comme Gaon, c'est un génie. Le Rambam, il recommande d'étudier les sciences pour connaître Hachem. J'ai un élève qui a fait tchouva comme ça. Il était un ingénieur microbiologie, je pense, un truc de tissu. Une fois, il regardait dans le microscope un truc qui était x 10 000 ouvert comme ça dans un tissu cellulaire, et il a vu de plantes. Il avait une tellement grande perfection, il a fait de chouva. Alors qu'il était très très loin de Torah. D'autres, en regardant, j'ai un cousin qui était à l'armée, il dormait à la belle étoile, il a vu toutes les étoiles comme ça, hop, il a fait de chouva. Aujourd'hui, les sciences, elles sont polluées. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain Darwin qui est venu et qui a dit tout le fruit du hasard. Et c'est presque impossible. Beaucoup de gens, des grands scientifiques, ont dit, c'est aujourd'hui, dire que le fruit du hasard, c'est comme si tu prends maintenant. Il dit, la chance pour avoir une bactérie, d'accord, par hasard, elle est beaucoup plus petite que celle d'avoir un jumbo qui est créé, un jumbo jet, d'accord, un Boeing 747, qu'un dépôt de ferraille, passe un ouragan, et hop, après l'ouragan, tu as un jumbo 747 flambant neuf qui est là. L'exemple, quand on donne, il est un peu trop faible, parce qu'il faut prendre chaque, il faut des balles. Rien que mettre une vis dans un trou de vis, d'accord, avec un vent, un ouragan qui passe. Combien de millions de milliards de chances tu as? Une chance sur des millions de milliards de milliards que ça arrive un truc pareil. Un jumbo, c'est impossible. C'est impossible, impossible. Mais, comme a dit Aldous Huxley, c'est un grand écrivain américain, il dit, ma soif de liberté sexuelle, celle qui me motive à me révolter contre toute idée de divinité. Voilà, je couche avec la voisine, c'est la femme de mon copain. S'il y a un dieu, je suis une ordure. S'il n'y a pas de dieu, je suis normal. Les animaux aussi, ils font ce qu'ils veulent entre eux, restons animaux, animal, d'accord. Comme a dit Adolf Hitler, que l'impudence juive, il a dit comme ça. Hitler, il a dit, les juifs ont amené au monde deux mutilations. Celle du corps par la Brit Mila, et celle de la conscience, et celle de l'esprit par la conscience, qui est la mutilation de l'esprit, la conscience. Quelqu'un, il fait une chose qui n'est pas belle, comme je dis maintenant, on est conscient que c'est pas propre. Mutilation de l'esprit. Dit Hitler, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. Dans la nature, le plus fort, il vainque le plus faible. La jungle. Nous voulons la jungle, la nature. Voilà, et nous on dit non. Il y a la nature qui est animale, et il y a l'être humain qui a l'image de Dieu. Alors oui, la science, mais aujourd'hui, elle est super polluée, la science, parce que ce mouvement-là de darwinisme a vu qu'il nous permet de faire ce qu'on veut. Il n'y a plus de bon Dieu, donc liberté totale, on fait ce qu'on veut. C'est très tentant. Donc beaucoup de scientifiques ont choisi cela comme une vérité, bien qu'il n'y a aucune preuve à cela. Je recommande à ce propos l'excellent livre de Mordechai Bitton sur... je ne sais pas comment il a dénommé, en tout cas, sur Darwin, d'accord, sur la théorie de l'évolution, qui n'est qu'une théorie qui n'a jamais été prouvée. Il y a deux jeunes gens sympathiques, les frères Bogdanov, qui ont écrit quelques bouquins comme ça, scientifiques, mais qui se sont fait huer, ratatiner. Ils ont montré une image, dans un colloque de très grands scientifiques, une image du monde, quelques minutes ou quelques heures ou quelques centaines de milliers d'années, peu importe, après le Big Bang. Vous savez que nous pouvons observer le monde tel qu'il l'était environ il y a 10 milliards d'années. Faisons un peu de physique élémentaire. Quand je me gratte le nez, quelqu'un qui est sur la Lune avec un télescope, il me voit maintenant me gratter le nez. Comment ça se fait ? La lumière du néon envoie des photons qui rebondissent sur mon nez et partent dans l'espace. Et un de ces néons, tic, il arrive dans le télescope du type qui est sur la Lune. Mais il verra cela avec une seconde de retard. Parce que la lumière, ça lui prend une seconde d'arriver sur la Lune, 300 000 km à la seconde. S'il est sur le Soleil, ça prend 8 minutes. Donc quand je me gratte, dans 8 minutes, sur le Soleil, on voit maintenant Ron Chayan en train de se gratter le nez. Maintenant, je crois que l'étoile la plus proche que nous avons ici, elle a quelques centaines de millions d'années. Quelque chose comme ça, d'années-lumière. On va prendre une beaucoup plus proche. Je crois qu'il n'y en a pas aucune aussi proche. Une qui se trouve, allez, disons, à 3400 ans. 3400 ans, années-lumière d'ici. C'est-à-dire que tu prends le photon qui part d'ici, ça le prend 3400 ans pour arriver sur la planète. Le type, qui... Attends, le type, il est maintenant, avec un télescope, il regarde la Terre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe Rabbeinu en face de la mer, qui s'ouvre, il rentre, il voit Pharaon qui le poursuit comme ça. Maintenant! Maintenant, sur cette planète qui est toute proche, il regarde, il voit ça en live. Génial. Donc moi, maintenant, avec un télescope, on peut arriver à voir des planètes qui sont le plus loin qu'on arrive. C'est à quelques années, c'est encore mieux. Maintenant, à l'époque où j'ai lu le bouquin là-dessus, on arrivait à voir des planètes qui sont à 10 milliards d'années-lumière. Donc je vois le monde tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Le monde, on estime qu'il a 13,7 milliards d'années. Planète Terre, 4 milliards et demi. Donc je vois des étoiles, le monde tel qu'il était, bien avant que la Terre soit créée. Alors les frères Bogdanov, ils ont fait comme ça une photo du monde tel qu'il est un certain temps après la création, je ne me souviens plus combien, d'accord, après le Big Bang. Et on voit, c'est pas simplement n'importe quoi, on voit une construction, on voit il y a quelque chose, c'est pas du rien, du niet. Alors dans cette grande conférence, ils ont dit, c'est le visage de Dieu. Quelque part, on voit qu'il y a une volonté, une information, une complexité. Il ne faut pas du fruit du hasard. Il y a des gens qui sont levés de la salle et sont partis en claquant la porte. Comment, dans un colloque scientifique, tu parles de Dieu? Ça ne colle pas. Dieu, c'est la foi, la science, c'est la science. C'est deux sujets différents. Mais si on est honnête, la science, le monde, il crie que Dieu existe. Quand quelqu'un commence à comprendre un peu à quel point il est petit, dans les bouquins d'astrophysique, on essaie de montrer un peu quelle est la grandeur du monde. Comme je l'ai dit, 13,7 milliards d'années-lumière. Aucun être humain ne peut imaginer cela. Tellement c'est grand. Alors comment ils font? Ils font un petit carré où tu vois la Terre avec la Lune. Puis après ce petit carré, c'est un gros carré. Ils le mettent en tout petit, dans une autre image. Bon, maintenant, c'est tout petit, on voit le Soleil qui est là. Ils prennent ce petit carré, tac, ils le mettent dans une autre image. Petit carré, on voit vaguement la Lune et le Soleil comme ça, dans un grand carré, il n'y a rien. Encore un petit, dans un grand carré, il n'y a rien. Puis après, au moment, on arrive à Pluton. Puis après encore, on arrive à Uranus. Puis après, il faut encore aller beaucoup, beaucoup de carrés, tu arrives à la première, à une autre étoile qui est aussi un petit système qui tourne autour. Et on va comme ça, on arrive, après beaucoup de temps, on arrive à une autre galaxie. Environ 100 milliards d'étoiles. Et après, tu prends sur toute la galaxie, tu mets dans un petit carré comme ça, rien. Pour nous décrire encore rien. Après, tu as une autre galaxie. Et environ aussi 100 milliards de galaxies dans l'univers. C'est énorme, 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 inimaginable. Même en faisant comme ça, tu n'arrives pas à imaginer. Au bout d'un moment, tu perds le fil, tu ne peux pas imaginer. C'est trop grand pour. Et on parle d'un monde fini. Et ça, d'après la Kabbalah, c'est le plus petit de tous les mondes. Asiya Sheba Asiya. Nul de nul. Porter des mondes plus grands, plus grands, plus grands, plus grands. Et toi, quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu t'adresses à Hachem. Tu fais une mitzvah devant Hachem. Quand tu fais une mitzvah, tu reçois maintenant un flux de Hachem. Tu deviens une partie de Hachem. Quel cadeau on est. Quel cadeau on a reçu. Si c'est dans ce sens-là, très bien. Ça nous grandit, ça nous permet d'avoir la conscience un tout petit peu de ce que c'est que Hachem. Alors, on se comporte différemment. On peut être aussi grossier, aussi petit. Et puis, il y a une science, parmi les sciences dont parle Gaon de Vilna, il parle de la musique. La musique, c'est un très grand vecteur d'amour d'Hachem. Les prophètes, à l'époque, il y a des écoles de prophétie. Très bientôt, Machar revient, dès qu'il revient, il y aura la prophétie, il y aura des écoles de prophétie. Tu apprends à être en contact avec Hachem, où il te parle, d'accord. Alors, il y a des écoles, et là-bas, ils se mettent en état de prophétie, pas avec du shit, et du heavy metal rock, ou du, on appelle ça, du rap, ou du, je ne sais pas ce qu'il y a entre, du trance, enfin, je ne connais pas toutes ces choses-là, d'accord. Il y avait de la belle musique. Et ça te met dans une situation comme ça de bonheur. Tu montes, tu montes, tu montes, et tic, Hachem se met à te parler. Ben, ça j'aime très bientôt. Baruch Adonai, l'homme, amen, va, amen.